Il est l'un des diplomates les plus suivis en France, francophile assumé. Il assume au quotidien son amour pour la France sur les réseaux sociaux.
Entretien exceptionnel avec Hideo Suzuki, ambassadeur du Japon en France. On va parler de son regard sur la France, sur les ponts à construire avec le Japon et sur la place de la France et de l'Europe dans un monde qui se fracture.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Hideo Suzuki, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très honorés avec Annalisa de vous recevoir aujourd'hui dans ce studio du podcast géopolitique L'Ordre du Monde. Vous êtes ambassadeur du Japon en France. Vous avez été nommé en novembre dernier. Et alors personnellement, je vous ai découvert, mais comme beaucoup de Français, parce que vous êtes extrêmement actif sur les réseaux sociaux et vous communiquez une forme d'amour pour la France qui a l'air, vous allez nous en parler, mais qui a l'air d'être extrêmement sincère. Toi aussi, tu les as vus, Annalisa, hein, tous ces posts.
Oui. C'est vrai que vous êtes très actif et donc c'est effectivement quelque chose qui vous identifie très rapidement et on avait envie de vous inviter aujourd'hui pour parler avec vous de tous ces sujets qui nous intéressent énormément.
Merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi et je crois que c'est un moyen de plus pour faire comprendre le Japon aux Français et vice-versa.
Alors déjà, d'où vient votre francophilie, Hideo Suzuki ?
C'est mon troisième poste en tant que diplomate en France, mais c'est mon quatrième séjour. J'ai été à Paris avec mes parents, ma famille, dans les années 71 à 73, quand j'étais petit enfant. Et je suis allé dans une école française du quartier, parce qu'il n'y avait pas d'école japonaise à cette époque. Donc ça s'est venu... J'ai été formé à la française, dans une école de République. C'est tout naturel que je deviens vraiment... J'acquis cet esprit français.
J'ai cru comprendre que quand vous étiez enfant, dans l'école de la République, on vous faisait apprendre par cœur des poèmes et des vers de Rimbaud, de Baudelaire. Ça vous a pas traumatisé, ça?
Au début, c'était un peu compliqué. Mais tout de suite, je me suis un peu emporté sur cette culture française, les vers, l'alexandrin, ce rythme très particulier de la poésie française, ça m'a beaucoup charmé.
Moi, ce qui m'a frappé dans vos posts sur X, moi je vous suis sur X, qui est peut-être votre réseau social de prédilection pour exprimer en tout cas votre rôle, c'est que bien sûr tous les diplomates en poste se doivent d'avoir un discours positif à l'égard du pays dans lequel ils sont, si ce n'est pas des pays en tension. Mais chez vous, on sent un discours très sincère, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel. Vous, au-delà de l'ambassadeur, qu'est-ce qui vous fascine de la France ?
Je crois que c'est... Il y a deux ou trois choses. C'est l'art de vivre à la française, qui est, je crois, votre soft power, que nous apprécions beaucoup au Japon et partout ailleurs. Je crois également l'histoire, les monuments, tous ces héritages historiques qui représentent vraiment ce que sont les Français. Je crois que c'est quelque chose de fascinant. Donc, je m'y ressource, je suis tout naturellement amené à me poser devant et de partager le battement de mon cœur devant cet héritage tout à fait particulier et exceptionnel en France.
En parlant d'histoire, Hideo Suzuki, je rappelle, vous êtes l'ambassadeur du Japon en France. Vous avez posté sur X, il y a quelques jours, une photo de vous devant l'affiche du film De Gaulle. Vous êtes allé voir De Gaulle, et là, on peut voir, pour ceux qui nous regardent, vous écrivez dessus, après l'avoir vu, vous ne parlez pas d'âge de fer, mais d'âge d'acier. Pourquoi et qu'avez-vous pensé de ce film sur De Gaulle ?
Je crois que cette ténacité du général est vraiment exceptionnelle. Il était seul à Londres, pratiquement seul. Il n'avait pas très peu de compagnons. Même Churchill ou encore plus Roosevelt ne lui faisaient pas confiance. Mais pourtant, il s'est ancré sur cette idée, sur une certaine idée de la France, et pour porter ce flambeau d'une république de la France qui a, et c'est vraiment une certaine manière, avec un cœur d'acier, Il a toujours tenu à avoir une présence française dans cette alliance, parmi les alliés. Et je crois que certainement, sans De Gaulle, la France n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui dans l'arène internationale.
Et c'est peut-être aussi des messages de voir aujourd'hui l'histoire de De Gaulle qui résonne particulièrement dans ce monde tellement fragmenté, qui se morcelle sous nos yeux.
Oui, je crois, tout à fait. Je crois que la France et l'Europe en général ont un rôle essentiel dans le rééquilibrage du monde. Et parce que, d'ailleurs, c'était le thème principal du sommet de G7 à Évian, qui s'est passé en juin. Pourquoi l'Europe? Pourquoi la France? Parce que l'Europe, l'Union européenne, a une... est spécialiste de partenariat. Par définition, l'Union européenne, c'est un réseau de partenaires. Et je crois que faire des partenaires, c'est dans l'ADN, c'est inscrit dans l'ADN de l'Union européenne et la France. Donc vous avez vraiment un rôle essentiel pour tisser tout un réseau de partenaires pour que nous puissions faire face, pour que nous soyons plus résilients, plus autonomes par rapport à l'incertitude et toutes ces fragmentations qui nous est d'une manière ou d'une autre imposée.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez mentionné le G7 à Évian-les-Bains.
Oui.
Vous y étiez, vous aviez été quelques semaines auparavant pour regarder comment ça allait se passer. Ce qui est intéressant aussi dans vos comptes officiels, qu'on a bien regardé hein, avant,
les avant
de vous interroger, ah oui. C'est que vous sortez aussi du stéréotype français, un peu qu'on peut avoir parfois à l'étranger, non, d'une France qui est faite composée de Paris, de la Côte d'Azur, du Mont-Saint-Michel, de ces endroits évidemment qui font partie de la France, mais qui constitue une seule partie de la France. Vous allez aussi dans des endroits beaucoup moins visités, beaucoup moins explorés, surtout par des étrangers. Qu'est-ce que ces endroits vous racontent de la France? Peut-être une partie un peu plus profonde du pays, un peu plus vraie?
Je crois tout à fait. Je crois que la France, ce sont les régions. Si je suis ambassadeur en France, je suis ambassadeur dans les régions. Et je crois que c'est mon devoir, mais avec un devoir très agréable, de visiter les Français dans tous les coins de l'Hexagone. Et j'y trouve vraiment des particularités dans toutes les régions, que vous soyez en Bretagne ou en Haute-Savoie, comme vous l'avez dit, que ce soit Hauts-de-France ou en Provence. Il y a une diversité culturelle riche, extrêmement riche, qui font la France, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il est important de se déplacer et de connaître les régions. Et nos compagnies, les compagnies japonaises, sont partout présentes, partout. On en a plus de 800 qui créent plus de 100 000 emplois et qui font partie vraiment du tissu économique et social de la France. Donc il faut, en tant qu'ambassadeur du Japon qui défend l'intérêt de nos entreprises, je dois connaître ces régions.
Vous avez raison de mentionner cet aspect de partenariat économique, d'autant qu'il y a quelques semaines, lors du sommet de Choose France, il y a quand même le japonais SoftBank qui a annoncé un investissement colossal. De 75 milliards de dollars, je crois, justement dans les Hauts-de-France. Vous qui nous parlez de cet amour des régions, là, on a rarement vu ça depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui a porté SoftBank à choisir la France et les Hauts-de-France?
Je crois que la France... selon un rapport de ENY, est le pays le plus attractif des investissements étrangers dans l'Europe. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le tissu industriel existant, la main-d'œuvre qualifiée, surtout l'énergie. Vous avez une énergie, surtout l'électricité, qui est abondante, et qui est essentiel pour l'industrie de l'IA. Donc, je crois que ces différents facteurs ont amené M. Son à prendre une décision importante. Et d'ailleurs, je crois comprendre que M. Emmanuel Macron, le président de la République, a rencontré M. Son quand il était à Tokyo. Donc, il y avait une préparation des deux côtés et qui ont mûri et qui a été annoncée.
Pour rester sur le côté économique, vous dites, je vous cite, que construire un espace économique fort et résilient, c'est finalement la stratégie pour corriger les déséquilibres mondiaux.
Tout à fait.
Et vous parlez de coopération dans les nouveaux domaines tels que l'IA, l'espace, les minerais critiques.
Oui.
Alors, deux questions déjà. Où on en est? Est-ce que cette coopération avance? Et concrètement, comment elle se matérialise, cette coopération?
Nous avançons. D'abord, sur les minerais critiques, nous avons un joint venture entre le Japon et la France à Lac sur le raffinement des terres rares. Et c'est d'ailleurs ici que M. le ministre de l'Économie et des Finances a publié sa stratégie pour les minerais critiques. Donc c'est vraiment emblématique, c'est très quelque chose de symbolique et qui a de la substance. Qui a de la substance. Sur l'IA, donc voilà, nous avons cet investissement en SoftBank, mais non seulement cela, mais il faut une coordination, une harmonisation de la politique. Parce que c'est un défi. C'est un défi qu'on doit maîtriser. Et je crois que... et nous avons, lors de la visite du président Macron à Tokyo, on s'est tombé d'accord que nous aurons un dialogue politique de l'IA à haut niveau, ce qui s'est fait tout de suite après le G7 d'Évian. Je crois que c'était le 19 juin. Nous sommes rencontrés au Quai d'Orsay et nous avons eu ce dialogue qui va accompagner tous ces investissements, toutes ces activités économiques.
L'IA, les terres rares, etc., ça fait partie donc de certains points de renforcement de partenariats stratégiques entre nos pays. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces liens entre la France et le Japon, et même au-delà de la France, entre l'Europe et le Japon, dans un monde, on le disait, qui se brutalise très très vite, et dans un monde qui est devenu un monde... on parle un peu de nouveaux empereurs dominés par la Chine et les États-Unis qui dictent leur tempo. Comment exister dans ce monde presque bipolaire? Et est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer entre nos deux pays ou l'Europe et le Japon?
Je crois, je répète, c'est une stratégie de partenariat entre l'Europe et la région du Pacifique, dont le Japon, qui partage beaucoup de valeurs, l'état de droit et système économique libre. Et je crois que c'est en coopérant que nous allons, renforcer une complémentarité pour que nous ayons une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, plus fiable entre ces deux bouts des continents. Et je crois que c'est ça. Et nous allons nous imposer, d'une certaine manière, notre standard, notre qualité ou notre écosystème dans tous ces domaines nouveaux de nos activités économiques. Et je crois qu'il est important qu'on s'efforce pour faire disparaître, s'il y en a, des barrières pour que ce soit encore plus complémentaire. Nous avons, l'année dernière, entre l'Union européenne et le Japon, conclu une alliance de compétitivité qui cherche à, ensemble, renforcer notre compétitivité vis-à-vis des tiers. Et je crois que tous nos efforts doivent s'inscrire dans cette idée. Et à cet effet, à ce regard, je suis aujourd'hui un peu inquiet de ce qui se passe en Europe. Il y a un certain mouvement protectionniste, comme les mesures sur l'acier, sur l'importation d'acier. Depuis 2018, l'Union européenne impose des clauses de sauvegarde contre tout ce qui n'est pas Europe, l'Union européenne. Et cet avril, la Commission a renouvelé, en renforçant encore davantage ces mesures protectionnistes, en réduisant le quota tarifaire pour l'acier et en doublant le droit de douane pour le volume qui dépasse.
Et en même temps, ces mesures protectionnistes et aussi ce mouvement qui va monter en puissance de préférence européenne dans toutes les appels d'offres et les importations, est-ce que l'Europe n'est pas condamnée à prendre cette voie si elle ne veut pas se faire écraser par le rouleau compresseur chinois? Parce que c'est aussi ça le sujet en toile de fond.
Justement, le problème, c'est la surproduction et la hyper-subvention de ce pays qui est en cause. Pas nous. Nous sommes plutôt des partenaires. L'acier que nous exportons vers la France, l'Europe, c'est des produits d'acier qui sont très spécifiques, très spécialisés, de très haute qualité, dont vous avez besoin pour faire marcher votre industrie de manufacture, enfin, dans tous les domaines.
Hideo Suzuki, je rappelle, vous êtes l'ambassadeur du Japon en France. Je voulais revenir, si vous le voulez bien, sur le style diplomatique que vous incarnez. Au-delà de cet amour sincère que vous avez pour la France, et on le ressent bien dans ce studio avec Annalisa, est-ce que derrière, ça ne participe pas aussi d'une stratégie de soft power que déploie aussi le ministère japonais des Affaires étrangères? J'ai cru comprendre aussi, par exemple, que vous avez un homologue, l'ambassadeur du Japon en Grande-Bretagne, qui déclare aussi sa flamme pour les Britanniques sur les réseaux sociaux, où il se met en scène avec les fish and chips, avec l'ours Paddington, etc. Sincèrement, je crois que l'ancien ambassadeur du Japon en Espagne aussi avait un lien intime très fort avec la culture espagnole. Voilà, est-ce que derrière, il n'y a pas une stratégie de soft power qui est quand même assumée?
Je ne sais pas si on peut appeler une stratégie, mais je crois que c'est une approche naturelle, parce qu'on est en démocratie, on doit aller à l'encontre du peuple, enfin du peuple, de la population de son pays hôte. Je crois que c'est une volonté de... Qui est assumé, si vous voulez. Et chacun fait ce qu'il a à faire.
Et ce qu'il ressent intimement.
Ce qu'il ressent intimement, voilà. Ce qu'il ressent. Je crois que la sincérité, c'est très important. C'est ça qui fait bouger les choses. La diplomatie, en général, est un peu perçue comme... une série d'arnaques ou de complots, etc. Mais pas du tout. C'est est-ce qu'on peut croire cet homme ou cette femme qui est en face de vous?
Mais disons que c'est un style qui tranche assez radicalement avec d'autres styles diplomatiques qu'on voit, et on parlait de ce monde qui se brutalise fortement, et c'est vrai qu'il y a aussi des puissances qui assument et qui déploient d'autres stratégies diplomatiques qui sont très offensives. Il y a même des expressions, on parlait de diplomates de loups guerriers, parce que c'est dans leur fiche de poste où ils disent il faut y aller et taper sur le pays où vous êtes en poste. Donc c'est pour ça que je vous parlais, on sent que ça se... on sent que dans la méthode, il y a quelque chose où vous essayez diplomatiquement plus de créer des ponts ou d'apaiser plus que de fracturer.
Je crois que la force, ne soyons pas naïfs, la force et la diplomatie sont les deux faces de la même médaille. Il n'y a pas de diplomatie si on n'est pas fort. Il n'y a pas de sécurité nationale sans force. Et c'est justement pourquoi nous travaillons pour renforcer notre capacité de défense, vu cette tension géopolitique, géostratégique, spécialement dans l'Indo-Pacifique. Il s'agit, je crois, mais cette force doit être encadrée. Je crois que nous avons la Charte des Nations Unies et tous les accords multilatéraux ou bilatéraux, et c'est doit être toujours une force qui est encadrée, qui est en coopération avec les partenaires et les alliés. Nous renforçons beaucoup les coopérations de défense avec la France. Les Français, les forces françaises viennent régulièrement au Japon pour avoir des exercices conjoints. Et c'est comme ça qu'on devient plus crédible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la dissuasion... et plus forte avec le partenaire.
Monsieur l'ambassadeur, vous évoquez ce jeu diplomatique qui va dans les deux sens. Et d'ailleurs, vous l'avez dit d'entrée de jeu, votre mission, c'est de faire connaître la France à vos compatriotes japonais, mais aussi le Japon à la France. Est-ce que vous, vous retrouvez chez les Français le même engouement pour le Japon que vous, vous démontrez à l'envers de la France? Vous parlez souvent dans vos posts sur X du sumo, par exemple, oui, qui est une forme d'expression particulièrement importante pour le Japon. Est-ce que vous ressentez le même engouement chez les Français pour votre pays?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et quand je rencontre des personnalités, il y a toujours soit lui ou elle a voyagé en France, au Japon, pardon, ou leur famille, les enfants sont allés ou vont aller au Japon. C'est vraiment général. C'est vraiment général. Et d'ailleurs, le nombre des touristes français a augmenté d'une manière impressionnante. Janvier 2026, comparé à janvier 2025, les touristes français ont cru de, je crois, 40%, 50%. Et je crois que c'est l'expression de cet amour pour le Japon. Je crois que les Français, depuis plus de 100 ans, d'ailleurs, on fête la disparition, on commémore la disparition de Monet il y a 100 ans. J'étais à Giverny pour voir l'exposition, très impressionnante. Mais depuis ce temps-là, l'amour ou le respect pour le Japon et vice-versa était extrêmement exceptionnel, même parmi les Européens. Vous êtes vraiment des êtres qui comprennent, qui ont la capacité de comprendre cette spiritualité.
Sur le sumo, je crois que le plus grand des ambassadeurs et le premier des ambassadeurs en France, c'était Jacques Chirac, quand même.
Tout à fait.
Qui a fait découvrir cette pratique et cette tradition en France. Peut-être pour terminer, un mot pour nous commenter aussi une autre passion que vous avez. Alors, elle n'est pas française, c'est juste à côté, c'est pas grave, c'est la Belgique, c'est juste à côté, mais c'est un poste, pareil, qui a fait flamber les réseaux sociaux, où on vous voit avec votre gabardine, votre manteau filant à Tokyo. Vous alliez à Tokyo pour rejoindre le président de la République et rendre hommage à votre plus vieux fidèle compagnon, Tintin et Milou. Ça, c'est une passion aussi?
Tout à fait. J'ai grandi donc en France avec Tintin et Astérix Obélix de l'autre côté. Ce sont mes... comment dirais-je? C'est à travers ça que j'ai découvert non seulement la France, mais le monde, puisque Tintin et Astérix font des aventures partout dans le monde. Et c'était pour moi une sorte d'ouverture pour le monde extérieur. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, typé. Et je continue toujours à le lire avec beaucoup de tendresse.
On l'entend. En tout cas, merci beaucoup Hideo Suzuki de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel. Je rappelle, vous êtes l'ambassadeur du Japon en France. Vous avez été nommé en novembre dernier. Puis de nous avoir transmis aussi votre amour pour la France et vos analyses géopolitiques.
Oui, on a eu beaucoup de réponses à nos nombreuses questions. Vous, n'hésitez pas évidemment à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à nous poser aussi des questions si vous en avez. On transmettra évidemment à monsieur l'ambassadeur. Nous, Mathieu, on prend quelques jours de pause cet été.
Oui, la pause estivale.
Mais l'ordre du monde ne s'arrête pas parce qu'on vous a préparé beaucoup, beaucoup de contenu qu'on va vous diffuser tout l'été, de contenu nouveau. Donc on reviendra sur toute
l'année. On parlera de la nouvelle route arctique. On parlera de Narva, la petite ville estonienne où la Russie teste l'OTAN en ce moment.
On parlera de Marc Carnet, de Giorgia Meloni. On ira en Corée du Nord aussi, regarder comment ça se passe pour le régime nord-coréen qui prépare sa succession. Donc voilà, restez connectés, vous aurez des contenus tout au long. Voilà, vous nous écouterez.
Voilà, on aura déjà l'ambassadeur du Japon qui suivra, j'espère, de chronique estivale.
C'est promis.
Bon.
Voilà, merci beaucoup à tous. Monsieur,
merci beaucoup.
Monsieur l'ambassadeur.
Un grand merci, monsieur l'ambassadeur. Très bel été à tous sur BFM Business, avec l'ordre du monde, bien sûr.